Alors, nous sommes tous des imitateurs par nature, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous apprenons. Mais le fait d'imiter ne nous sert pas juste à faire le bien. Ça nous apprend à faire le mal aussi, des fois. L'année dernière, mon fils était en grande section de maternelle et pendant une période de quelques mois, il avait l'habitude de rentrer de l'école avec des gros mots à la bouche. Ça commence jeune. C'était un mot, une expression différente chaque fois. La première fois qu'il a prononcé quelques mots très vulgaires, je lui ai demandé où il avait appris ces mots et s'il comprenait ce qu'il disait. Sa réponse: papa, j'ai appris ces mots de tel garçon et je ne sais pas de ce que ça veut dire. En fait, à travers les autres, les enfants apprennent à communiquer, qui inclut des expressions très créatives et malheureusement parfois vulgaires aussi. Malgré les mots qui sortent de leur bouche, je ne dirais pas que mes enfants ne sont que des païens grossiers, mais ce qui est sûr, c'est que les enfants sont des imitateurs. Nous sommes tous des imitateurs. Si on veut apprendre un sport, on imite ceux qui le pratiquent bien. Si on veut mieux apprendre à jouer d'un instrument, on écoute les grands maîtres et on les imite, n'est-ce pas? L'imitation, c'est comme ça qu'on apprend toutes sortes de choses. Nous pouvons nous améliorer en imitant les bons exemples. Et aujourd'hui, nous allons étudier la suite de notre série dans l'Épître aux Éphésiens. Et en arrivant au début de chapitre 5, nous voyons tout de suite une exhortation, celle d'être les imitateurs de Dieu. Les deux premiers versets d'Éphésiens 5 servent à conclure les enseignements pratiques des versets précédents, le chapitre 4. Mais ils servent aussi à introduire deux concepts très importants qu'on découvre au verset 3 à 7. Je vous assure que vous êtes tous des imitateurs. Mais des imitateurs de quoi? Les imitateurs de qui? C'est ça la question. Lisons donc Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 7. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande, en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malsaisant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Prions. Seigneur, guide-nous dans notre étude de ce texte, afin que les mots qui sortent de ma bouche t'honorent, que je communique clairement et fidèlement le sens de ce texte. Donne-nous à tous des oreilles attentives à ta parole, Seigneur. Aide-nous dans la mise en pratique de ce texte. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes tous des imitateurs. C'est pourquoi, dans ce texte, l'apôtre Paul nous donne un impératif. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Un deuxième impératif découle du premier: marchez dans l'amour. Autrement dit, c'est en imitant Dieu qu'on marche dans l'amour. Ce verset est le seul verset de la Bible, en fait, qui nous appelle directement à imiter Dieu. Bien sûr, il y a d'autres textes qui nous appellent à pleinement suivre la voie du Seigneur, ou à imiter Christ, par exemple, ou à marcher complètement selon la loi de l'Éternel. Mais ici, Paul nous dit d'être les imitateurs de Dieu. Et cet impératif a un sens moral dans ce texte. L'idée est de vivre selon les préceptes de Dieu, d'imiter son amour, en fait. L'idée n'est pas d'être tout-puissant comme Dieu, ou omniscient comme Dieu, ou de devenir un Dieu nous aussi. D'accord ? Le contexte ne permet pas ce genre de lecture. Et donc, c'est notre vie morale, notre caractère, qui doit refléter notre relation avec Dieu. Les gens qui imitent Dieu sont des gens qui suivent Dieu. Alors, je vais revenir tout à l'heure au verset 1 et 2. Parce que nous pouvons mieux comprendre ces versets et l'ordre qui nous est donné d'imiter Dieu si on comprend d'abord quelles sont les autres options qui s'offrent à nous dans ce texte. Vous voyez, il y a d'autres choses que l'on peut imiter dans ce monde. Au verset 3 à 7, Paul met l'accent sur divers objets qui nous charment et que l'on est tenté d'imiter. On peut résumer ces tentations, ces deux catégories, l'impureté et la cupidité. L'impureté et la cupidité. On est tenté d'imiter soit l'impureté de ce monde, soit la cupidité de ce monde, et souvent les deux à la fois, n'est-ce pas? Paul accentue ces deux genres de problèmes parce que ces deux choses ont posé des problèmes à Éphèse. Parce que ces deux choses contredisent directement l'appel à la foi en Christ qu'on a déjà étudié dans cet épître. Et franchement, parce que ces deux choses figurent parmi nos péchés préférés. Nous sommes tous des imitateurs. Et nous aimons beaucoup imiter l'impureté de ce monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'immoralité sexuelle, la débauche, les pensées, les paroles perverses. En fait, selon ce texte, quand on échoue à recevoir et à imiter l'amour que Dieu a pour nous, on tombe facilement dans une perversion de l'amour. Notre façon d'aimer devient corrompue, tout comme l'objet de notre amour. Alors, pour être clair, quand Paul parle de l'impureté ou de l'inconduite sexuelle dans ce texte, il emploie en grec le mot « pornéa ». Ça désigne les rapports sexuels en dehors du mariage, l'adultère et d'autres formes d'impureté sexuelle. Notre traduction française n'utilise pas des mots aussi forts que ça, mais l'idée, en tout cas, se réfère à quelque chose de très grave. Et de plus, on peut comprendre ces termes de grossièreté, de propos insensés, de bouffonnerie, comme désignant des paroles qui sont sexuellement déplacées et impures. Il y a un rapport entre ces choses dans ce texte. Comme je l'ai dit déjà, Paul met l'accent sur le problème de l'impureté parce que c'était un péché particulièrement évident dans la culture d'Éphèse. On a tendance aujourd'hui à excuser notre impureté sexuelle en prétendant qu'il y a plus de tentations dans notre monde moderne. Et que la pression de vivre dans l'immoralité sexuelle est plus grande aujourd'hui. Mais en réalité, on n'est pas dans une situation très différente aujourd'hui par rapport à celle des Éphésiens il y a 2000 ans. Le monde grec était inondé de toutes sortes d'impuretés. La religion grecque proposait des activités sexuelles dans les temples, par exemple. Les dieux grecs étaient admirés pour leurs conquêtes sexuelles. La fornication ou le sexe en dehors du mariage et l'adultère étaient aussi communs à Éphèse à cette époque-là qu'aujourd'hui à Lyon. On aime trouver des excuses pour notre immoralité sexuelle. Oui, il y a beaucoup de nudité et de scènes de sexe dans ce film, mais c'est pas très grave. C'est un bon film, n'est-ce pas? Oui, je vis dans le concubinage, mais c'est pas très grave. C'est le 21e siècle. Oui, je l'ai déshabillée du regard, mais c'est sa faute, elle porte des vêtements provocateurs. On aime trouver ce genre d'excuses pour nos péchés préférés, n'est-ce pas? Mais que dit ce texte? que l'impureté ne soit pas même mentionnée parmi vous. Ma traduction anglaise le dit autrement, même pas une trace, une note d'impureté. Pourquoi? Parce que ce genre de choses ne reflète pas l'amour de Dieu, la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Dieu qui nous appelle à être saints comme il est saint. L'impureté sexuelle est centrée sur l'individu, sur ses propres désirs. Par contre, la bonne sexualité, qui est basée sur le véritable amour, c'est aussi basé sur un engagement mutuel, destiné à protéger le couple. Ça n'invite pas d'autres personnes dans la relation. Ça évite les images et les paroles impures, vous voyez? Ça n'imite pas le monde. L'impureté, c'est comme un crocodile domestiqué, dans un sens. Il est tellement mignon, il joue dans le bain, il mange à la table, il dort dans la chambre jusqu'à ce qu'il nous dévore, n'est-ce pas? Pour éliminer le monstre, il faut l'affamer. Pour éteindre le feu, il faut arrêter de jeter du carburant dedans. Pour chasser des cafards de la maison, il faut tout bien nettoyer. Trop souvent, on entend des histoires où un gars, parfois même un pasteur, quitte sa jolie femme et ses jeunes enfants, perd sa réputation et finit dans une relation adultère avec une prostituée ou quelque chose de ce genre. Et on se dit, mais comment est-ce que ça s'est arrivé? Quel idiot celui-là! Regarde tout ce qu'il a perdu! Mais ça, c'est la nature de l'inconduite sexuelle. Ce n'est jamais logique et jamais utile. Quand un être humain est en proie à la convoitise sexuelle, il est capable des pires perversions. Malheureusement, on est par nature des imitateurs du monde et de l'impureté. On cherche des occasions de gratifier nos désirs qui pourtant nous conduisent à la ruine. En dehors de la grâce de Dieu en Christ, on imite toujours l'impureté autour de nous. Et ça ne s'arrête pas à l'immoralité sexuelle. Nous sommes aussi des imitateurs de la cupidité. Nous imitons les cupides parce que nous sommes attirés par la cupidité et nous sommes naturellement incités à devenir de plus en plus cupides dans la vie. Tout comme l'impureté, la cupidité est un de nos péchés préférés. Et encore une fois, quand on échoue à recevoir et à imiter l'amour que Dieu a pour nous, par conséquent, ce qui devrait faire l'objet de notre amour est remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose de mauvais. Dans ce texte, il est dit que la cupidité est un genre d'idolâtrie, on lit dans ce texte. C'est-à-dire que notre adoration est dirigée vers un faux Dieu. Selon le verset 5, les cupides ou les idolâtres n'ont pas d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Leur héritage est dans le royaume de leur faux Dieu. Le Dieu que l'on imite, qu'on imite, est le Dieu qui est l'objet de notre louange, en fait. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous devons nous poser la question, combien de temps est-ce que je passe en étant tout préoccupé et tracassé par l'argent? Est-ce que j'ai d'énormes dettes? Est-ce que je suis mal dans ma peau parce que je ne possède pas le dernier gadget technologique qui vient de sortir? Est-ce que je suis jaloux ou envieux des autres? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai aujourd'hui? Et vous savez quelle est la réponse à ces questions. Mais peut-être pour telle ou telle raison, vous n'êtes pas obsédé par l'argent, par les possessions. Bien, mais n'oubliez pas la cupidité spirituelle aussi. C'est-à-dire le manque de contentement par rapport à l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. Le désir d'avoir plus de bénédictions spirituelles et matérielles ou de vivre des expériences spirituelles spectaculaires, alors que la réalité, c'est que Dieu vous a déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est une forme de cupidité spirituelle. Quand on ne reconnaît pas les dons que Dieu nous a donnés, quand on se compare aux autres dans l'Église, quand on pense toujours aux possibilités de demain au lieu de penser à ce que Dieu compte faire aujourd'hui. Nous sommes tous des imitateurs de la cupidité de ce monde. Et malheureusement, nos meilleurs amis, nos meilleurs profs en spiritualité, ce sont bien souvent les fils de la rébellion, pour reprendre l'expression de verset 6. Encore une fois, c'est en observant les enfants qu'on peut se faire une bonne idée de ce que c'est que la cupidité. Dans la galerie de l'Église, à ce moment-là, maintenant, le jouet le plus intéressant pour tous les enfants, c'est le jouet qui est dans les mains de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Si vous leur donnez de la glace, ils demanderont des bonbons. De la même façon, si vous amenez un enfant à l'endroit le plus intéressant du monde pour les enfants, à Disneyland par exemple, ou au parc Astérix, ou quelque chose comme ça, il va se plaindre et demander à être ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont jamais contents. Ils ne sont jamais contents. Mais les adultes, c'est pareil, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas obsédés par demain au lieu d'aujourd'hui? Par la retraite au lieu du travail? Par les possessions au lieu des relations? Contrairement à l'ordre qui nous est donné au verset 7, notre part est bien souvent avec les fils de la rébellion qui nous séduisent par de vains discours. Mais ça nous ramène au début de notre texte, au verset 1 et 2. Il est clair que nous imitons aisément les désirs de la chair. Mais comment devenir les imitateurs de Dieu? La réponse se trouve dans l'expression « comme des enfants bien-aimés ». Comme des enfants bien-aimés. Nous sommes encouragés à imiter Dieu en faisant preuve du même amour envers les gens que celui dont il fait preuve. Selon le commentateur Peter O'Brien, l'expression « comme des enfants bien-aimés » dénote beaucoup plus qu'une comparaison entre un père et ses enfants, mais ça désigne la base sur laquelle repose cette exigence d'amour. Autrement dit, si nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, nous sommes ses enfants bien-aimés. Son amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu chaque jour de notre vie en tant que chrétien. Et parce que nous sommes aimés d'un tel amour, nous pouvons à notre tour aimer Dieu et les autres. Nous pouvons imiter Dieu parce que Dieu nous a donné la capacité de le faire. C'est seulement en nous approchant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Jésus qui est mort sur la croix à notre place, à cause de notre péché. C'est seulement par la foi en lui que nous pouvons imiter Dieu et nous détourner du péché. L'impureté et la cupidité que nous aimons tellement perdent leur charme lorsque nous nous approchons de Dieu et lorsque nous recevons la grâce qu'il nous donne. Plus nous comprenons le prix que Jésus a payé pour nous, plus notre péché devient moche. Imaginez que vous travaillez dans une ferme. Vous tirez le lait des vaches, par exemple. Vous empilez du foin dans une grange. Vous donnez à manger aux animaux. Et le pire, c'est de ramasser le fumier. Et c'est obligatoire. Mais quand vous portez pour votre travail des vieux vêtements et des bottes, et quand vous êtes déjà imprégné de l'odeur de la grange, vous ne remarquez pas vraiment la boue, la saleté, l'odeur, la transpiration, n'est-ce pas? Marcher toute la journée dans la saleté ne vous pose pas de problème. Alors imaginez que vous finissiez votre travail, que vous enleviez tous vos vêtements sales, que vous preniez une bonne douche, que vous lavez avec des savons fruités, vous enfilez votre meilleur costume, votre plus belle robe, vous mettez sur vous une super eau de toilette ou un parfum qui vaut très cher, par exemple, et vous vous préparez à aller rencontrer quelqu'un de très important, quelqu'un comme le président de la République ou le pape ou la reine d'Angleterre ou même moi, par exemple, quelqu'un de très important. Maintenant, imaginez que vous deviez traverser la grange. Pas facile, n'est-ce pas? C'est gênant. Il faut faire attention où vous mettez les pieds, attention à ce qui va entrer en contact avec vos vêtements. Vous êtes devenu tout d'un coup beaucoup plus sensible aux odeurs qui s'attachent à vos vêtements, n'est-ce pas? Vous êtes mal à l'aise dans cet environnement. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Plus on imite Dieu en restant dans sa grâce par la foi, plus on est sensible à la saleté de l'impureté et de la cupidité. C'est en imitant Dieu, notre Père, et l'auteur de notre salut, que le charme du monde perd sa puissance. C'est par le parfum de bonne odeur que représente le sacrifice de Christ que nous aussi nous sommes rendus purs devant lui, devant Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ces exhortations qui ont été révélées pour notre bien, pour le bien de nos frères et nos sœurs en Christ. Nous confessons, Seigneur, que nous sommes souvent séduits par l'impureté de ce monde, par la cupidité. Mais nous te remercions pour ta grâce envers nous, pour l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur, qui nous transforme et qui fait de nous tes imitateurs. Au nom de Jésus. Amen.